philosophie première, père Marie-Dominique Philippe, le 29 avril 1998 à Saint-Jean-d'Arc.
C'est bien de reprendre dans la lumière de Sainte Catherine de Sienne avec Sainte Thérèse, l'enfant Jésus. Il ne faut jamais les séparer. Les deux docteurs du désir. Grâce à Dieu, vous avez pu. Où il s'enferme dans son individualité. Et il oublie la finalité. Et on vit ça. Je crois que c'est là où on est dans le combat du petit David en face de Goliath. Et on doit en prendre conscience. Parce que c'est capital. C'est capital pour sauver dans notre intelligence humaine ce qu'il y a de divin en elle. C'est-à-dire ce qu'il y a d'ultime dans mon intelligence. Mais alors, ayez toujours ça présent. Parce que si vous oubliez cette interrogation, vous retombez sur les résultats, ceux que vous connaissez, ceux que vous avez assimilés, ceux que vous possédez. Alors ça va plus. Et vous pourriez mettre en nota bene l'interrogation. Est à la métaphysique ce que le désir est à notre vie chrétienne. Catherine de Sienne dit ce qu'il y a de plus grand dans notre vie chrétienne, c'est le désir. Elle a compris ça. Que le poids de la sainteté, c'est dans le désir. Le poids de la sainteté d'une âme, c'est le désir. Alors, le désir de l'espérance chrétienne, j'ai soif. Le désir de l'espérance chrétienne, qui reçoit le Christ soif du Christ dans la passion et qui s'appuie sur ce désir, qui construit tout dans ce désir. Et puis l'interrogation au plan humain, celui qui n'interroge plus s'assied et ronronne. Il est satisfait de ce qu'il a découvert, parce qu'il est le génie de notre siècle. Alors il est heureux. Si on recherche la vérité, on est possédé par la vérité. Et on la recherche tout le temps. Et on veut toujours aller plus loin. Et c'est ça qui nous allège et qui nous donne les ailes de l'aigle, qui nous permet d'aller toujours plus loin. Eh bien, voyez, ce que nous faisons maintenant, c'est nous essayons de découvrir la structure philosophique, métaphysique, de ce qu'il y a dans notre intelligence. D'aller toujours plus loin. On a découvert par induction l'être en acte. On désire découvrir le plus qu'on peut ce qu'est cet être en acte. Comme nous ne le saisissons qu'analogiquement, nous essayons de regarder ces différents modes, les différentes modulations de l'être en acte. Et la première, c'est l'essai. Pourquoi ? Parce que l'essai assume que nous saisissons en nous. Je suis, j'existe. Quand vous dites j'existe, au plan métaphysique, c'est votre être actuellement en acte. Je suis. C'est pas je pense, c'est je suis. Vous découvrez que le je suis est antérieur au point de vue intellectuel à je pense. Parce que je ne peux dire je pense que parce que je suis. Vous voyez, c'est cela qui est tout à fait fondamental. Et dans le développement de la philosophie européenne, dans le développement de la philosophie grecque, regardons toujours ces deux développements. Sont parallèles. Entre deux, il y a la révélation chrétienne. Et ça, c'est capital. Historiquement, c'est capital. Mais, ayant toujours, et si on le peut, on aurait le développement de la philosophie de l'Inde. C'est-à-dire que c'est trois. À voir en parallèle, ça nous aiderait beaucoup. Parce qu'on verrait des analogies constantes. Quand vous dites « je suis », nous l'avons déjà vu et déjà insisté sur cela, nous saisissons en nous ce qu'il y a de tout à fait fondamental. C'est dans l'immanence de mon existence, de mon être, ce qu'il y a de primordial, d'ultime, je suis, mon exister. C'est quelque chose qui est ultime. Alors, c'est bien la première première manière pour moi de saisir l'être en acte. J'existe, ceci est. Je reviens au jugement d'existence, voyez, et je ne saisis mon je suis d'une façon métaphysique qu'à travers ceci est. Et les deux s'identifient pour moi. Parce que l'être qui existe, pour moi, le plus immédiat, c'est moi. Mon jugement d'existence, pour moi, est quelque chose de plus immédiat que l'affirmation de l'existence de l'autre. Toi, mon ami, tu existes. Mais je ne peux dire ça avec toute sa force lorsque j'ai découvert mon exister. Vous voyez, et c'est pour cela que le premier mode, premier poyonti, un mode qualitatif de l'être en acte, c'est l'exister. Et dans l'exister, celui qui m'est donné en premier lieu, c'est bien je suis, j'existe. Qui implique ceci est, parce que le je suis, pris d'un point de vue purement phénoménologique, n'est pas métaphysique. Je le décris. Tandis que là, je le saisis à travers le jugement d'existence et dans le jugement d'existence. Or, ce jugement d'existence, je suis, est substantiel. je suis, parce qu'il ne dépend pas de moi. Il a pu exister avant moi. Et ça ne change rien à mon amitié. Mon amitié s'inscrit dans cette diversité des existés. Alors, petite question, puisqu'il faut répondre aux questions. Comment éviter la chosifie, de chosifier l'acte? Pour éviter de chosifier l'acte, nous faisons cette étude des poyonti, c'est-à-dire des modes particuliers de l'acte. Parce que la tentation de chosifier, c'est lorsque on n'a pas saisi avec suffisamment de profondeur le principe. Quand on a saisi un principe propre de ce qui est la substance ou l'acte, de ce qui est en tant qu'il est, il n'y a aucun danger de chosifier. Le danger de chosifier, c'est de retourner en arrière et de confondre le fondement et la finalité. Chosifier, c'est replier, se replier sur soi-même et confondre la manière d'exister et ce qui est en tant qu'il est. Comme ce qui est en tant qu'il est saisi toujours analogiquement. Donc, c'est toujours saisi et ça demande toujours d'être dépassé. Et comme le dépassement est fatigant, dès qu'on est un peu fatigué, on se replie. Et on chosifie. Vous voyez, on prend la chose en soi, Platon. La forme en soi, le cheveu en soi, la figure humaine en soi. C'est chosifié, ça. Alors on se repose. Alors, il est évident que l'acte, principe propre de ce qui est, selon la fin, est saisi d'une manière ultime et toujours d'une manière analogique. Donc, il n'est jamais possédé. Je ne possède pas ma métaphysique. Je tends toujours à l'approfondir, tout le temps. Comment éviter de chosifier l'acte? Comment éviter de transposer dans la philosophie théorétique, spéculative, la métaphysique, la découverte de la finalité comme une réalité tangible? La finalité n'est pas une réalité tangible. Elle est un principe propre de ce qui est. Donc, elle ne peut être saisie qu'à travers une induction. Et l'induction permet ou réalise l'analyse au plan de l'intelligence théorétique qui cherche la vérité. La découverte de la finalité comme une réalité tangible, telle qu'on l'a fait en philosophie pratique. Même en philosophie pratique, on ne chosifie pas. Hein. Je le dirai tel qu'on l'a fait en phénoménologie. Ce n'est pas la philosophie pratique. C'est confondre la ratio et le mode. Est-ce distinction entre la fin et le but qui permet d'éviter cette confusion. J'allais dire, si on évite cette confusion, on distinguera la fin et le but. Mais ce n'est pas la distinction de la fin et du but qui me permet de dire. Il faut faire cette distinction avant. Elle est plus fine. Vous voyez, la saisie du principe est pour mon intelligence humaine ce qu'il y a de plus vital. Donc, c'est la finalité même de mon intelligence. Elle est faite pour ça. Et ensuite, je vois tous les résultats. Distinguer le ti-esti et le poyonti au niveau de la recherche de la fin. Je comprends que c'est pas commode. Hein. Alors, pour éviter de chosifier l'acte, disons, pour éviter de chosifier le principe propre de ce qui est en tant qu'il est, selon la fin. Parce que l'acte, à quel niveau ça se situe ? L'acte, il se situe aussi bien ceci est, ceci existe, c'est un acte. Mais ceci est, ceci existe, n'est pas le principe propre de ce qui est en tant qu'être, selon la fin. Ceci, c'est une res. Et cette res existe. C'est sûr, elle existe. Elle existe d'une manière artificielle. J'ai jamais vu pousser une table. Et donc cette table n'a pas une phusis, une nature propre. Cette table, son principe, c'est l'idéa de celui qui a conçu cette table. La première fois qu'on a conçu une table, historiquement, je sais pas, ce serait intéressant. Première fois qu'on a conçu une table, comment on l'a conçue ? Avant, on écrivait sur ses genoux. C'est sûr. Ou on écrivait par terre. La table était le sol. Quand Jésus écrit sur le sable, c'est tout à fait primitif. Puis petit à petit, on a conçu le passage du sol au genou. Faisons de nos genoux un sol artificiel. Je peux pas prendre la terre et... Et j'ai conçu une table. Un pupitre. Bon, c'est très intéressant ça, mais ça ne me donne pas le principe propre de l'acte. Ça me montre un premier dans l'ordre du devenir. Et j'ai voulu faire que, au point de vue utilité, je ne sois pas obligé de me mettre à genoux par terre pour écrire. Je pourrais, vous savez, ça ne change rien à ma métaphysique si j'ai conçu l'acte grâce à une table. Si j'ai conçu l'acte, saisi l'acte au terme d'une induction. En me mettant par terre. Parce que quand je suis seul, je peux me dire, je suis plus rassuré quand je suis sur le sol. Je comprends mieux le devenir et la stabilité. C'est vrai, ça. Regardez le gosse. Quand il est debout, depuis un certain temps, il s'assit. C'est fatigant d'être debout. S'asseoir. Et s'asseoir avec une table. De stabilité. Stabilité du corps, stabilité de la main. Alors, on est tout entier à l'envol métaphysique de nous séparer. Qui saisit le principe. Et le principe est au-dessus de tous les modes particuliers de l'acte. Et comme c'est particulièrement difficile de saisir ce principe, je regarde ces poyonti. L'acte, où est-ce que je le découvre? Ah, je le découvre, je ne dis pas où je le touche, mais où mon intelligence le découvre. En premier lieu, je suis. J'existe. Et mon ami aussi. Il existe. Quel repos de savoir que mon ami existe. Il est là. Je le touche. Mais voyez, ce n'est pas le jugement d'existence. C'est découvrir qu'il y a dans mon ami quelque chose d'irréductible à l'amour que j'ai pour lui. Et qui me permet de tendre vers lui et de me dépasser. C'est pas le jugement d'existence. Le jugement d'existence, c'est bien un poyonti. Plus exactement, c'est un pouce. Entre les deux, il y a ce poyonti, ce mode spécial de ce principe, l'acte. Où existe-t-il de la manière la plus stable, la plus substantielle? J'ai découvert la substance avant. Il est évident, alors peut-être que ça va vous aider à comprendre, il est évident que la substance est saisie comme un principe propre selon la forme, que l'acte est saisi comme un principe propre selon la fin. Ah, selon le kathos, selon la forme, selon la fin, les deux sont distinctes. La substance n'est pas l'acte. Et c'est parce que la substance n'est pas l'acte que j'ai, après la découverte de la substance, repris l'expérience pour découvrir qu'est-ce que la fin de ce qui est. Et j'ai découvert à ce moment-là un nouveau principe distinct de la substance qui est l'acte. Lorsque je veux saisir première modulation, le premier mode de ce qui est selon la fin en tant qu'il est, je dis l'exister. Et quand je dis laisser l'exister, je vois que l'exister, pour moi, à quel endroit, à quel moment est-il parfaitement l'être en acte? C'est lorsque je dis « je suis ». Or, dans le « je suis », il y a mon âme, spirituel, la substance et l'acte. C'est le premier moment où ma découverte de la substance et la découverte venir. Est-ce qu'ils le peuvent? Ou est-ce que c'est une construction artificielle? Comme on dira, une synthèse. J'ai horreur de ce terme-là. Parce qu'il n'y a pas de synthèse. Il y a quelque chose de bien plus profond que la synthèse. L'unité. Dans l'être. Ah, attention. J'ai découvert la substance à partir de l'expérience d'une réalité qui est. J'ai découvert le principe propre selon la forme à partir d'une réalité qui est. Ah, au point de départ, il y a quelque chose de commun. Le point de départ de la substance, le point de départ de l'acte, l'expérience de la réalité existante. Je ne suis pas parti d'une idée. Si j'étais parti de l'idée substance et de l'idée acte, je ne pourrais jamais les réunir. Mais je suis parti d'une expérience, d'une réalité. Et j'ai découvert dans cette réalité quelque chose de fondamental et de premier. Et j'ai dit, principe propre selon la forme de ce qui est. Et pour l'acte, je suis parti d'une expérience, peut-être la même, ça importe peu, puisque c'est toujours moi. C'est mon expérience. C'est l'expérience de mon intelligence. Je n'ai pas dit à mon ami, ah, l'acte, c'est toi qui dois le découvrir, c'est pas moi. Moi, je découvre la substance. Et toi, tu découvres l'acte. Alors, on va faire une œuvre commune. On va faire une métaphysique à deux. Il faut être deux pour faire une métaphysique. Non. C'est toujours mon intelligence qui, à partir de l'expérience, découvre ces deux principes. Puisque ces deux principes ont la même origine, la réalité existante que j'expérimente, je peux, ayant découvert le principe propre selon la forme, le principe propre selon la fin, réfléchir sur le moment où la saisie de ces deux principes vont être un. C'est impressionnant du reste pour l'intelligence. Et c'est beau. À quel moment faites cette découverte vous-même? À quel moment la réflexion que vous faites sur la substance. Où est-ce que vous saisissez le mieux la substance? Nous l'avons vu, ça. En réfléchissant sur ce qui en vous est de plus stable. Votre principe d'unité de toute votre vie, c'est l'âme. C'est votre substance. Votre substance la plus proche, c'est votre âme. Bien sûr. La substance de votre ami n'est pas aussi proche que votre âme. La saisie de votre âme, connais-toi toi-même. Socrate dit pas, connais ton ami et tu te connaîtras. Non. Connais-toi toi-même et tu pourras connaître ton ami. Donc c'est bien cette réflexion sur ce qu'est ma substance, que je vois que ma substance, source de toutes les déterminations, est en même temps source de mon acte, de mon exister. c'est sûr, parce que si on vous coupe, vous voyez bien qu'elle existe. Mais, réflexion de ce philosophe que j'aimais beaucoup, qui était professeur de philosophie à Lausanne. Il avait un cancer. Il était très philosophe et très féminologue. Il réfléchissait sur la situation du philosophe qui a un bras en moins. C'est pas drôle, hein, comme expérience. J'ai pas eu du tout envie de l'imiter. Et on passait des heures, quand on avait le temps, à réfléchir sur le philosophe qui a un bras en moins. C'est aussi l'acte, ce qui est ultime en moi. Je suis ultime fondamentalement. C'est pas ce qui est ultime dans la vie et dans ma vie, mais dans mon état actuel. C'est ce qui conditionne tout le reste. Si je n'existe plus, pas la peine de continuer. Laissez. Ce n'est pas une expérience. C'est ayant saisi ces deux principes propres. Je regarde la rencontre de ces deux principes. Sont un, non pas comme principe, mais ils sont un dans leur être, tous les deux dans l'être sont un, et me donnent comme deux usages. Voir dans le langage moderne, dirait la synthèse, vous voyez comme c'est gros. pensée métaphysique dans l'ordre de l'être, de la substance et de l'acte. C'est impressionnant, ça. C'est l'essai. C'est très impressionnant, l'essai. Et c'est très important, parce que quand vous découvrez ça, vous commencez à mieux comprendre combien le jugement d'existence est vraiment le point de départ de la métaphysique. Et qu'il ne peut pas y avoir un autre. Parce que c'est là où se noue la rencontre de ce qui est premier selon la forme, ce qui est premier selon la fin. C'est ça le poyanti. C'est, et vous voyez, ce n'est pas ce que je touche, ce que je saisis dans mon expérience, mais c'est le fondement métaphysique de ce que je touche, de ce que j'atteins dans l'expérience du jugement d'existence. C'est pour ça que c'est si important. rêve. Très beau, très idéaliste. Merveilleux, c'est pas la réalité. Votre ami, vous lui donnez la main. Vous touchez son épaule. Et vous vous embrassez à la mexicaine. Tapez. C'est pas l'âme séparée. Si à ce moment-là vous dites « Ah, ne me touche pas !» Dépasse cette modalité. « Me touche pas !» Nous sommes tous les deux âmes séparées. Et notre corps est une barrière qui nous empêche de nous voir. Essayons de nous voir dans notre âme séparée. Si votre ami vous dit ça un jour, qu'est-ce que vous lui direz ? Tu es en train de décoller. Et c'est vrai, tu es en train de décoller. De considérer que la distinction est une séparation. Or, la distinction n'est pas une séparation. C'est pour ça que je puis découvrir l'essai comme le premier poyonti de l'être en acte qui implique à ce moment-là la source de mon existence, mon âme. C'est très important de saisir cela parce que je crois qu'il y a là un désir très profond de mon intelligence. Oui, le désir le plus radical de mon intelligence, mais un désir qui est source de tout idéalisme. Et l'idéalisme, c'est quand l'imaginaire, l'intuition remplace l'expérience. Tout l'idéalisme naît d'une intuition qui remplace l'expérience. Quel est le premier désir de tout idéalisme ? C'est de considérer comme une intelligence. Le fait même, toute distinction est une séparation que je ne tolère pas. Et je dis, mon exister, mon être, c'est ma conscience. Et la source de tout néoplatonisme. Vous voyez comme c'est important. C'est la conception même de l'essai différente chez Aristote et chez Avicenne. Et ça a été le génie de Thomas d'Aquin de dire ce qu'Avicenne dit reste quelque chose d'un idéal. Nous ne sommes pas des anges qui se sont incarnés. Non. Et dans l'idéalisme, c'est toujours ce désir-là qui revient, être des anges qui se sont incarnés. Et donc, prenons conscience que si nous sommes incarnés, ce n'est pas nous. C'est à cause du péché. L'union de notre intelligence et de notre corps pénitence. On n'aime pas de la vie jusqu'au bout. Débarrassons-nous de ça. Et pensons avant la pénitence, tel que nous étions avant. Pensons que nous sommes des êtres purement spirituels et que notre corps colle à notre esprit d'une manière violente. C'est un cachot. C'est une punition. La réalité est autre. C'est curieux, voyez, avant, dans l'idéalisme, il y a ce refus d'accepter que l'esprit et la source de l'esprit, notre âme, puisse être naturellement unie à un corps, puisse être substantiellement unie à un corps. Alors, notez bien, parce que c'est intéressant pour nous, il faut le mettre à l'extérieur, parce qu'au point de vue philosophique, je ne peux pas faire appel à ça. Mais si nous sommes chrétiens, nous pouvons au moins, comme point d'interrogation, comme attente, l'Église a-t-elle accepté cette position philosophique de dire que nous sommes des anges déchus, mais nous sommes des anges, et que l'union de notre âme et de notre corps est une conséquence du péché, et donc quelque chose qu'on n'a pas accepté. Notre corps, c'est... on ne peut pas faire autrement, mais c'est lourd à porter. Surtout quand notre corps commence à vieillir. Alors, il y a une tentation permanente de néoplatonisme. Quand notre corps est svelte, souple, alors ça peut encore aller. Mais quand notre corps vieillit, et notre âme ne vit pas spirituellement, alors on est tenté de séparer. Et vous voyez le problème du premier mode d'exister, du premier mode de l'être en acte, laisser. C'est capital de comprendre ça. Que laisser n'est pas l'être en acte, au plan métaphysique, n'est pas un principe. Mon essai n'est pas un principe.